الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
Nous allons donc commencer le troisième cours, si on prend en compte l'introduction. Donc on va dire le deuxième cours, بإذن الله. الباب الثاني في الآنية. وفيه عدة مسائل. الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره، والأصل فيها الإباحة. دونك والأصل فيها الإباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Le deuxième chapitre concerne les récipients. Donc c'est le chapitre des récipients. Et il y a plusieurs sujets dans cela. Et le récipient, c'est tout ustensile dans lequel l'eau est gardée, ou autre. Que ce soit un ustensile en métal ou d'une autre matière. Et la base dans les ustensiles, c'est la permission. C'est-à-dire qu'il est permis d'avoir en sa possession ou d'utiliser tout récipient sauf s'il y a un texte qui mentionne qu'une chose ou qu'un récipient est interdit. Et ça en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la traduction du sens rapproché, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Al-mas'alatu al-ula isti'malu aniyati al-dhahab wal-fiddati wa ghayrihima fi at-tahara. Le premier point concerne le fait d'utiliser des récipients d'or et d'argent ou autre que cela pour la purification. يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال. Donc ici, l'auteur nous dit qu'il est permis d'utiliser tous les récipients, que ce soit pour tous les récipients, que ce soit pour boire ou manger ou autre utilisation, à condition que ces récipients soient purs et licites, et ce même si ces récipients sont précieux et sont coûteux. Ici, dans le livre, l'auteur il est d'avis que l'interdiction d'utiliser les récipients en or et en argent, c'est seulement pour boire et pour manger. Pour tout le reste, on peut les utiliser. Ici, il nous dit, quant au fait de les utiliser pour autre chose que boire et pour manger, cela n'est pas interdit. C'est-à-dire que tu peux utiliser un récipient d'or et d'argent, par exemple, pour faire les ablutions selon l'avis de l'auteur. Et il se base donc sur plusieurs hadiths du prophète alayhi salatu wasalam. Le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fidda wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fi ad-dunya wa lakum fi al-akhirah. Ne buvez point dans les récipients en or ou en argent et ne mangez point dans les plateaux faits de ces matières, car elles leur appartiennent ici-bas et vous appartiennent dans l'au-delà. Ainsi que le hadith de Salama radiyallahu anha: الذي يشرب في إناء أو في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه أو في بطنه نار جهنم. Donc elle nous dit ici, radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque boit dans un récipient en argent ne fait qu'ingurgiter dans son ventre un feu de l'enfer. Et les deux hadiths sont authentiques. Ils ont été rapportés dans Bukhari Muslim. Donc ici, l'avis de l'auteur, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas utiliser un récipient d'or et d'argent pour manger, pour boire de manière spécifique. Quant au fait de les utiliser pour autre que cela, c'est permis. Car ce qui est mentionné dans le hadith, c'est seulement l'interdiction de boire et de manger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus éloquent et parler avec une langue claire et explicite. Et ceci est l'avis de l'imam al-Shawkani, ainsi que que la vie de l'imam Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi. Et Cheikh Ibn Uthaymin rapporte dans cela également que Salama radiallahu anha, celle qui rapporte le hadith, elle avait chez elle un récipient, une sorte de vase dans lequel il y avait un cheveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque les gens se plaignaient, les compagnons se plaignaient d'une maladie, elle versait de l'eau dans ce vase, ensuite elle versait dans un autre verre et donnait à boire aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que ce soit une cause pour qu'ils guérissent. Donc ici, ils disent que c'est une preuve qu'on peut avoir en sa possession, donc des récipients en or ou en argent, tant qu'on ne les utilise pas pour boire et pour manger. Ceci dit, il faut savoir que la majorité des savants sont d'avis que c'est interdit de les utiliser même pour autre chose que pour boire et pour manger. Et Allah Ta'ala alam, le meilleur c'est quoi? C'est de sortir du khilaf, surtout que la majorité des savants sont sur cela, et que le khilaf est assez fort, c'est-à-dire la divergence est assez forte, et vaut mieux donc ne pas utiliser les récipients d'or et d'argent, même pour d'autres utilisations. D'ailleurs, par rapport à... Les ulama ont répondu au hadith de Salama. Et ils ont répondu au hadith de Salama en disant qu'il y a d'autres... Il y a d'autres mots qui ont été rapportés dans le hadith. Ce n'est pas seulement un récipient ou un vase en argent. Et ils ont dit aussi que dans d'autres riwayats, dans d'autres versions, il a été rapporté que Salama versait directement de l'eau dans ce récipient et buvait de cette eau. Et il est connu qu'il est interdit de boire dans un récipient d'or ou d'argent selon l'unanimité des savants. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit que, et c'est l'avis de notre cher Suleiman Rahili, hafidhahullahu ta'ala, que l'avis prépondérant dans cela, c'est qu'on ne peut pas utiliser les récipients d'or ou d'argent de manière, donc que ce soit pour boire ou manger ou autre utilisation, Allahu alam. Ensuite, quelle est la sagesse derrière cette interdiction? Et ni pourquoi on ne peut pas utiliser les récipients d'or et d'argent. Ici, le Cheikh Suleiman, dans son explication de Dalil Talib, nous dit: certains savants ont dit que la raison de l'interdiction, c'est-à-dire de manger et de boire dans les récipients en or, est de ne pas briser le cœur des pauvres. Et le pauvre ne trouve pas de quoi manger, tandis que cet homme mange dans de l'or, dans un récipient d'or. Et également, le pauvre ne trouve pas de quoi se nourrir, ni de quoi nourrir ses enfants. Et il voit ce musulman manger dans un récipient d'or, ce qui peut briser son cœur. Et nous avons mentionné à maintes reprises que l'une des vertus de cette religion, c'est-à-dire de la religion de l'islam, est qu'elle est une religion qui prend en compte les cœurs. C'est-à-dire qu'elle prend en compte les cœurs des musulmans. Veille sur les cœurs des croyants et veille à la pureté des relations entre les croyants, afin qu'aucune animosité ne se développe entre eux. Et si le pauvre voit le riche manger dans de l'or, son cœur peut se briser. Et le riche doit donc prendre soin du cœur du pauvre et éviter de manger dans de l'or, dans des récipients en or. Et si le pauvre voit le riche manger dans de l'or, dans un récipient en or, il en deviendra envieux. C'est pourquoi le riche doit éviter de manger dans des récipients en or afin de ne pas susciter cette envie. Et d'autres savants ont mentionné, ils ont dit que la raison de cette interdiction est que cela est réservé aux mécréants dans ce bas monde. Et les mécréants mangent dans des récipients en or et boivent dans des récipients en argent, entre autres. Or, il nous a été interdit de nous conformer aux pratiques des mécréants. Manger ou boire dans des récipients en or ou en argent est donc une imitation aux mécréants. Et l'imitation des mécréants est interdite. Donc ça, c'est la sagesse pour laquelle cela a été interdit. المسألة الثانية حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. Le deuxième point concerne le jugement des récipients qui ont été réparés avec de l'or et de l'argent. L'auteur nous dit إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء لحديث أنس رضي الله عنه قال انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. C'est un hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari. Donc, il nous dit ici, si la cassure est réparée avec de l'or, alors cela est interdit. Il est interdit d'utiliser ce récipient-là pour boire ou manger de manière absolue. Donc, si cette cassure est réparée avec de l'or, c'est interdit de manière absolue. Et si la cassure est réparée avec de l'argent et qu'elle est moindre, c'est-à-dire que la fissure ou la cassure est petite et on répare avec un tout petit peu d'argent, alors à ce moment-là, il est permis d'utiliser ce récipient-là pour boire et pour manger. En vertu du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par Anas, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit, le verre du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était cassé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réparé la cassure avec une chaîne en argent. Al-mas'atu thalithatu aniyatu al-kuffari. Le troisième sujet concerne les récipients des mécréants. Al-aslu fi aniyati al-kuffari al-hillu illa idha 'ulimat najasatuha fa innahu la yajuzu isti'maluha illa ba'da ghasliha. لحديث أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتابنا فنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. Donc ici l'auteur nous dit la base concernant les récipients des mécréants c'est qu'ils sont licites, ça c'est la base, sauf si on sait qu'ils sont impurs. Donc si on sait que leurs récipients sont impurs, à ce moment-là, ils ne sont plus licites pour nous. Et si tel est le cas, il n'est permis de les utiliser qu'après les avoir lavés. Et ça, c'est important, Yahya Khoa. Cette mas'ala, elle est importante pour nos frères qui sont convertis, par exemple, et qui vivent avec des parents qui mangent, par exemple, qui mangent du porc dans... Donc ils utilisent des assiettes dans lesquelles ils mettent, par exemple, du porc. Et on sait que le porc est illicite. Donc si tel est le cas, celui-ci, qu'est-ce qu'il va faire? S'il voit que ses parents utilisent, d'abord la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de trouver une assiette dans laquelle ils n'ont pas mis leur viande illicite. Et si ce n'est pas possible, et qu'il voit que la vaisselle a été lavée par exemple, il peut utiliser l'assiette dans laquelle il y a eu du porc pour manger dans celle-ci après qu'elle a été lavée. Donc il nous dit ensuite, et la preuve de cela est le hadith de Abi Tha'labat al-Khushani, dans lequel il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes dans une terre des gens du livre, pouvons-nous manger dans leur récipient? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ne mangez pas dans ceux-ci, sauf si vous n'en trouvez pas d'autres. Alors lavez-les, et ensuite manger dans ceci. Mais il faut savoir que la cause de cette parole a été rapportée dans un autre hadith qui a été rapporté donc par Ahmed et Abu Daoud, dans lequel Abu Tha'labah demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit Nujawiru ahl al-kitab wa hum yatbahuna fi qudurihim al-khinzir wa yashrabuna fi aniyatihim al-khamr. Donc il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une autre version, nous voisinons avec des gens du livre et ils cuisinent le porc dans leur marmite et boivent de l'alcool dans leur récipient. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, ne mangez pas dans ceux-ci sauf si vous n'en trouvez pas d'autres, alors lavez-les et ensuite mangez dans ceux-ci. Ensuite l'auteur nous dit, وَأَمَّا إِذَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا بِأَنْ يَكُونَ أَهْلُهَا غَيْرَ مَعْرُوفِينَ بِمُبَاشَرَةِ النَّجَاسَةِ فإنه يجوز استعمالها لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. ولأن سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها. Il nous dit ensuite, si on ne sait pas si le récipient est impur ou touché par une impureté, du fait que les habitants d'un lieu ne sont pas réputés pour utiliser ces impuretés. Il est permis d'utiliser leurs ustensiles. Maintenant, si on arrive chez des gens, auprès des gens qui sont parmi les gens du livre, et ils nous donnent de la nourriture dans une assiette. Mais il est connu que ces gens-là n'utilisent pas, par exemple, la viande de porc, ou ne cuisinent pas la viande de porc dans leur marmite, par exemple, ou ne la mettent pas dans leur assiette. Donc il est permis d'utiliser à ce moment-là leur ustensile. Car il a été confirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont accompli leurs ablutions dans un récipient appartenant à une femme polythéiste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé ici à cette femme-là, est-ce que vous utilisez ceci ou vous utilisez cela. C'est-à-dire qu'il a utilisé directement le récipient. Et de plus, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de consommer la nourriture des gens du livre et ils nous la servent dans leur propre récipient. C'est-à-dire que lorsque un mécréant vient te proposer de la nourriture, il le sert dans son récipient. Et il a été rapporté qu'un enfant juif a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a servi un pain d'orge avec du condiment et il mangea. Donc si la personne sait que le récipient était en contact avec une impureté, il ne lui est pas permis de l'utiliser, si ce n'est après l'avoir lavé. Et ensuite, il peut manger dans celui-ci. Et s'il ne sait pas si ce récipient était en contact avec une impureté, il lui est permis d'utiliser ce récipient, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-mas'atu rabi'atu, al-taharatu fil-aniyati, المتخذة من جلود الميتة. Donc المسألة الرابعة الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة. Donc ici le quatrième point concerne la purification des récipients qui sont fabriqués à base de peau de bête morte. L'auteur nous dit جلد الميتة إذا دبر جاز استعماله لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبر فقد طهر ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال إنه يطهرها الماء والقرب ودز نوت فيرسيون فإنما حرم أكلها. وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاء وإلا فلا. L'auteur nous dit ici, il est permis d'utiliser la peau de bête morte après l'avoir tannée. En vertu du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout cuir tanné devient pur. Ainsi que le hadith qui a été rapporté par Maymunata radiallahu anha, dans lequel elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par un groupe de gens qui traînaient un mouton mort. Et il dit, et si vous preniez sa peau afin d'en profiter. Et ils dirent, c'est une bête morte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui est interdit c'est de le manger. Et dans une autre version, l'eau et les feuilles de l'acacia la purifient. Et il faut savoir que ce jugement concerne seulement la bête qu'il nous est permis d'égorger. En dehors de cela, ce n'est pas permis. C'est-à-dire que cela concerne seulement la bête qu'il nous est permis d'égorger. Et l'auteur nous dit que la preuve de cela est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل أو فسقا أهل لغير الله به. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, traduction du sens du verset, dit dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger. Que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui par perversité a été sacrifié à autre qu'Allah. L'auteur nous dit ensuite, وأما شعرها فهو طاهر أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة وأما اللحم فإنه نجس ومحرم أكله لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. Donc il nous dit ici l'auteur quant aux cheveux, c'est-à-dire aux cheveux de cette bête morte, yani ils sont purs. Et quand on parle ici de la bête morte, c'est la bête, yani, qui nous est permis d'égorger et qui nous est permis de manger lorsqu'elle est en vie. Quant à la viande de la bête morte, celle-ci est interdite à la consommation. En raison de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je viens de mentionner, c'est-à-dire, dit dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu'Allah. Ici, l'auteur nous dit, donc le cuir, donc la peau peut être purifiée en enlevant la saleté et l'impureté présente sur la peau en utilisant des substances ajoutées à l'eau, comme le sel ou des plantes connues, comme les plantes d'acacia ou le genévrier ou autre que cela. فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرا وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. L'auteur nous dit, quant aux animaux qu'il ne nous est pas permis d'égorger, ils ne se purifient pas par le tannage. Ainsi, la peau du chat et des animaux de plus petite taille ne devient pas pure par le tannage, même si l'animal était pur de son vivant. Par exemple, il y a un roi. Si maintenant on a un chat, le chat, est-ce qu'il est pur ou est-ce qu'il est impur? Le chat, il est pur. On a même vu que sa salive est pure. Ceci dit, est-ce qu'on peut manger le chat? Là, il est interdit de manger le chat. En tout cas, chez nous, alhamdoulilah, on ne mange pas le chat. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on peut tanner sa peau? On ne peut pas tanner sa peau. Pourquoi? Parce que c'est un animal que on ne peut pas consommer, même s'il est pur de son vivant. Par exemple, le mouton, est-ce qu'il est pur? Est-ce qu'on peut le consommer? Est-ce qu'on peut tanner sa peau? Non, c'est ça la règle. Il nous dit ensuite, de même la peau d'un animal dont la consommation est interdite, même s'il était pur de son vivant, ne devient pas pur par le tannage. Et en résumé, tout animal qui meurt et dont il nous est permis de manger la viande, sa peau devient pure par le tannage. Et tout animal qui meurt et dont il ne nous est pas permis de manger sa viande, sa peau ne devient pas pure par le tannage. C'est aussi simple que ça. Subhanallah, résumé, ici, deux lignes à résumer, deux pages, Allahu barik. Donc je répète, tout animal qui meurt et dont il nous est permis de manger la viande, sa peau devient impure par le tannage. Et tout animal qui meurt et dont il nous est interdit de manger sa viande, sa peau ne devient pas pure par l'euthanasie. الباب الثالث في قضاء الحاجة و... وآدابها وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. مقام الآخر. Ici, nous allons voir le troisième chapitre qui concerne les règles de bienaisance relatives au fait de faire ses besoins. Et il y a plusieurs sujets, plusieurs points. Le premier point, c'est l'istinja et l'istijmar, et le fait que l'on peut se suffire d'un des deux. L'istinja ou izalatul khariji min as-sabilaini bil ma' wa l'istijmar mas'huhu bi tahirin mubahin munqin kal hajari wa nahwi wa yujzi'u ahaduhuma 'an al-akhar لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه والجمع بينهما أفضل. الاستنجاء consiste à enlever ce qui sort des deux orifices à l'aide d'eau. C'est-à-dire c'est lorsqu'on utilise l'eau. C'est simple. الاستنجاء c'est quand on utilise l'eau. الاستجمار c'est quand on utilise des pierres ou autre que cela, comme de nos jours c'est le papier toilette. Donc الاستجمار consiste à essuyer à l'aide d'un objet pur et autorisé et qui nettoie, c'est-à-dire pur, licite, et qui nettoie comme une pierre ou quelque chose de similaire. Et l'un peut remplacer l'autre, c'est-à-dire l'un des deux suffit. C'est-à-dire que la personne maintenant qui utilise seulement l'eau et qui nettoie ses parties intimes, et qu'elles sont nettoyées à l'aide de l'eau, ça suffit. Tout comme une personne qui utilise seulement les papiers toilettes, et qu'à l'aide des papiers toilettes, il arrive à nettoyer donc ces parties intimes, cela suffit. Et le fait de combiner entre les deux est meilleur. Et la preuve de cela est le hadith de Anas. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi, il dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allait aux toilettes, un garçon de mon âge et moi-même amenions un seau d'eau en cuir et un bâton à la pointe en fer. Ensuite, il se nettoyait avec l'eau. Et d'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand l'un de vous va accomplir ses besoins, qu'il se nettoie avec trois pierres, car cela lui suffit. » Donc ici, ce hadith prouve que le fait d'utiliser seulement les pierres suffit. Mais le fait de combiner avec l'eau, et avec les pierres et avec l'eau, cela est meilleur, car c'est plus propre. L'auteur nous dit ensuite والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مساحات لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجع أو عظم والحديث رواه مسلم. Ici, يا إخوة, l'auteur nous dit الاستجمار peut être fait avec des pierres ou avec tout autre objet pur, nettoyant et permis. Il y a un illicite. Comme les serviettes, les mouchoirs en papier, le bois ou autre chose de similaire. Donc, ici, il mentionne quoi ? Trois choses. Que ce soit pur, que ce soit licite et que ce soit une chose qui nettoie. Parce que si maintenant on prend quelque chose d'humide, et Allahu alam, je ne sais quoi, et que tu ne fais qu'étaler l'impureté et que ça ne nettoie pas à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose de, yani qui nettoie. Ensuite, il nous dit, donc l'auteur nous dit, il n'est pas permis d'utiliser moins de 3 essuyages pour l'istijmar. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit l'auteur ? Maintenant, imaginons une personne, akramakumullah, il fait ses besoins, il utilise 2 papiers, ou un papier, et seulement avec un papier, il a nettoyé la partie qui était touchée par les impuretés, c'est-à-dire qu'il est propre. Eh bien ici, l'avis c'est quoi ? C'est que la personne doit rajouter encore 2 essuyages. Et ce qui est voulu ici par 3 pierres, comme ça c'est clair, ce n'est pas le fait d'utiliser 3 mouchoirs. C'est le fait d'utiliser 3 essuyages. C'est-à-dire, par exemple, si on a une pierre avec, par exemple, plusieurs côtés, on va dire, si maintenant il utilise un côté, puis un deuxième côté et un troisième côté, c'est-à-dire qu'il fait 3 essuyages, alors à ce moment-là, cela lui suffit et c'est bon, et c'est valide. Ou bien, il peut utiliser aussi 3 mouchoirs. Mais ce qui est voulu ici, c'est pas ces 3 essuyages. C'est pas obligatoirement 3 pierres ou bien 3 morceaux de papier toilette. Donc ici, on le répète, bidinla, ce qui est voulu ici, c'est qu'il est obligatoire, c'est de faire minimum 3 essuyages et non d'utiliser 3 pierres différentes. Et cela ne veut pas dire que si l'endroit n'est pas propre après 3 essuyages, qu'il ne doit pas rajouter. C'est-à-dire que si la personne maintenant, elle voit qu'après 3 essuyages, ce n'est pas assez, il rajoute 4, 5, 6, jusqu'à ce que ce soit propre. Et la preuve de cela est le hadith de Salman radiallahu anhu. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous laver les parties intimes avec la main droite, de s'essuyer avec moins de 3 pierres et d'essuyer nos parties intimes avec un crottin ou un os. Et il a été rapporté aussi un hadith aussi de Ibn Mas'ud radiallahu anhu, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu faire ses besoins et il lui a dit de lui apporter 3 pierres. Ensuite, il y a une question qui se pose ici. Le nombre d'essuyages après les 3 premiers, est-ce qu'il doit obligatoirement être un nombre impair ou pas ? C'est-à-dire que si la personne maintenant a fait 3 essuyages, mais ce n'est pas encore assez, c'est-à-dire que l'endroit n'est pas encore propre, il en rajoute un 4e. Ici, est-ce qu'il lui est obligatoire de s'arrêter à un nombre impair ou pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit rajouter 1 et en faire 5 ? Cheikh Souleyman rahmatullah alayhi nous dit, l'avis prépondérant, c'est-à-dire le plus juste, c'est que cela est recommandé et non obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est que l'on essuie au minimum 3 fois. Ça, c'est l'obligation, comme on a mentionné. Et cela, l'avis de Ibn Taymiyyah, de Ibn Uthaymeen, de Ibn Baz, et celui de Cheikh Souleyman, hafidhahullah ta'ala. Et la preuve de cela est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Man istajmara fal yutir, man fa'al » فَقَدْ أَحْسَنْ وَمَنْ تَرَكْ فَلَا حَرَجْ عَلَيْهِ. Donc il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit, celui qui se nettoie avec une pierre, qu'il utilise un nombre impair. S'il le fait, c'est quelque chose de bien, et s'il ne le fait pas, alors il n'y a pas de mal. Et c'est un hadith qui a été rendu bon par Abu Daoud et Ibn Hajar rahmatullahi alayhima. Et ici il y a une autre mas'ala, c'est une mas'ala importante. Et wallahi, ça c'est la faïda, je vous dis, d'avoir plusieurs explications d'un matn. Par exemple, l'insan, quand il a l'explication de Boulour al-Maram, il le prend de plusieurs savants, je crois. Wallahi, il y a une énorme faïda dans cela. Comme ça, l'insan, quand il prépare, quand il cherche une mas'ala, il regarde qu'est-ce qu'ils disent, les savants, parce qu'il faut savoir que les shuruhat, les explications, elles se complètent les unes les autres. Il regarde dans l'explication d'Al-Bassam, rahmatullah alayhi, l'explication d'Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il y a l'explication d'Abdullah al-Fawzan aussi qui est très bien, l'explication de l'Allama ibn Baz, et d'autres, et il combine entre ces explications-là. Ici, l'allama, Cheikh al-Bassam, rahmatullah alayhi, nous dit: quant à celui qui combine entre l'eau et les mouchoirs, doit-il faire obligatoirement trois essuyages? C'est-à-dire ici, on a une personne qui va utiliser des mouchoirs et une personne qui va utiliser quoi? De l'eau. Est-ce que celui-ci doit obligatoirement faire minimum trois essuyages ou pas? C'est une mas'ala importante ou pas, Yahya? Surtout pour ceux qui sont d'avis que faire trois essuyages, c'est obligatoire. Le Cheikh Bassam nous dit: l'interdiction de se nettoyer avec moins de trois pierres est conditionnée par l'absence de l'intention d'utiliser de l'eau après les pierres. C'est-à-dire qu'ici, une personne qui va utiliser seulement les pierres, c'est une condition le concernant de faire minimum trois essuyages. Mais s'il utilise de l'eau avec, alors non. Il nous dit, en revanche, s'il a intention d'utiliser de l'eau après, il n'y a pas de mal à se contenter de moins de trois pierres ou de trois papiers toilettes. Car l'objectif ici est de réduire l'impureté sur la zone et non de se purifier complètement. Allahu alam. المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. Le deuxième point concerne le fait de faire face à la Qibla et donner son dos à celle-ci lors des besoins naturels. L'auteur nous dit: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. لحديث أبي أيوب لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. Ici, le deuxième point, il nous dit, il est interdit de faire face à la Qibla et de donner son dos à la Qibla lorsqu'on fait ses besoins. Et ce, lorsqu'on est dans le Sahara, par exemple dans le désert, ou dans un endroit dans lequel il n'y a pas de séparation, comme un mur ou autre que cela. Et ce, en vertu du hadith d'Abi Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas face et ne tournez pas le dos à la Qibla en déféquant ou en urinant, mais tournez-vous plutôt vers l'est ou vers l'ouest. Ensuite, l'auteur nous dit qu'il a été rapporté que Ibn Omar radiallahu anhuma a dit: un jour je me suis rendu chez Hafsa et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplir ses besoins en faisant face au Sham et en tournant le dos à la Kaaba. Et il a été rapporté que Abi Ayyub a dit également: en arrivant au Sham, nous avons trouvé des toilettes construites en direction de la Qibla. Nous nous détournions donc et demandions pardon à Allah. Et l'auteur nous dit: si maintenant la personne se trouve dans une maison, c'est-à-dire dans une habitation ou autre, c'est-à-dire qu'il y a entre lui et la Qibla une séparation, que ce soit un mur ou autre, alors il n'y a pas de mal à ce qu'il fasse face ou donne le dos à la Qibla. Et cela a été rapporté de Ibn Omar radiallahu anhuma. Il a été rapporté qu'il a mis son chameau entre lui et la Qibla. Ensuite, il s'est assis pour uriner face à la Qibla. Et un compagnon qui lui dit: Ô Aba Abdirrahman, nous a-t-il pas été interdit de faire cela? Il répondit, radiallahu anhuma: oui, il nous a plutôt été interdit de le faire dans un endroit vaste, tel que le désert. Mais s'il y a quelque chose entre toi et la Qibla qui te cache, il n'y a alors pas de mal. Et cela a été jugé bon par l'imam al-Albani, rahmatullahi alayhi. Et l'auteur nous dit ensuite: le meilleur est de délaisser cela, même si c'est dans une construction ou une habitation, afin de sortir de la divergence. C'est-à-dire maintenant que si tu vas construire un appartement et un akhil kerim, fais en sorte que la toilette ne soit pas en direction de la qibla, afin de sortir du khilaf. Mais si maintenant il n'y a pas le choix, la vie prépondérant bi-idhnillah, c'est qu'il n'y a pas de mal. Al-mas'atu al-thalithatu ma yusannu fi'luhu li-dakhil al-khala. Le troisième point, ce qu'il est recommandé de faire pour celui qui entre ou qui est aux toilettes. Yusannu li-dakhil al-khala qawl bismillah bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith وعند الانتهاء والخروج غفرانك وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج وأن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. Il nous dit ici ce qu'il est permis à la personne qui donc de dire avant de rentrer aux toilettes, c'est qu'il dit bismillah اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de rentrer aux toilettes, il disait: « Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les démons mâles et femelles. » Et lorsqu'il sort, il dit « Je te demande pardon. » Ghufranek. Et lorsqu'il rentre aux toilettes, il rentre avec son pied gauche. Et lorsqu'il sort, il sort avec son pied droit. Et ya ikhwa wallahi, les ulama, ils ont dit que nombreux sont les gens maintenant qui sont touchés par les shayatines. Et la raison à cela, c'est parce qu'ils ne disent pas cette dua. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre cette dua à ses épouses, ainsi qu'à ses enfants, à ses parents et autres, afin de se préserver du mal des shayatins. Ensuite, ici, il y a une faïda, je crois, que Cheikh Ibn Uthaymeen a mentionné. Il dit, on lui a posé la question, pourquoi demandons-nous pardon à Allah après avoir fait ses besoins? Parce que toi, quand tu sors des toilettes, tu dis Rufranek. Tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il rapporte une faïda. Et il faut savoir que les savants ont donné deux raisons à cela. La première, ils ont dit, car lorsqu'on était aux toilettes, on ne pouvait pas évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, alors on demande pardon à Allah pour ce manquement. Et wallahi, regardez ici le fiqh de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Wallah, c'est incroyable, rahmatullah alayhi. Ici, il répond à une question. Donc, on lui dit justement cela. On dit, Yachir, certains disent que lorsqu'on sort et on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que on ne pouvait pas évoquer Allah, alors on demande pardon pour ce manquement. Regardez qu'est-ce qu'il répond, Cheikh rahmatullah alayh. Et ça prouve son fiqh et ikhwa, rahmatullah alayh. Il dit, cela mérite réflexion. Car l'homme s'est abstenu d'évoquer Allah, car Allah le lui a interdit. Toi, il t'a interdit d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala aux toilettes. Donc comment Allah va te rendre responsable d'une chose qu'il t'a interdite à la base. Il dit ensuite, et si cela est ordonné par Allah, il ne s'expose pas à la punition, mais plutôt à la récompense. Donc le fait que tu n'évoques pas Allah aux toilettes, tu es récompensé pour cela. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'ordonne de ne pas l'évoquer aux toilettes. Ensuite, le cheikh nous dit, rahmatullah alayh, c'est pourquoi la femme en période de menstruation ne prie pas et ne jeûne pas. Doit-elle pour autant, une fois purifiée, demander pardon à Allah pour avoir manqué la prière et le jeûne pendant ses jours de menstruation? Et il dit ensuite, absolument pas. Et personne ne l'a jamais dit. Regardez, ikhwa al-fiqh. Allahu Akbar. Et le cheikh nous dit ensuite, il devient donc clair que l'analogie est la suivante. Donc comment on peut expliquer ça? C'est que comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a allégé et purifié des nuisances corporelles, alors tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala de t'alléger et de te purifier des nuisances spirituelles, c'est-à-dire des péchés et autres. Rahmatullahi alayhi. Ensuite, il nous dit, وَإِذَا كَانَ فِي الْفَضَاءِ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِبْعَادُ وَالْإِسْتِتَارُ حَتَّى لَا يُرَى وَأَدِلَّةُ ذَلِكَ كُلِّهُ حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البرازة حتى يتغيب فلا يرى. Il nous dit ici, s'il est en plein air, il est conseillé de s'éloigner et de se cacher pour ne pas être vu. Et la preuve de cela, le hadith de Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu qui dit, nous sommes sortis en voyage avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il ne se rendait aux toilettes jusqu'à ce qu'il s'éloigne des regards pour ne pas être vu. Et il a été rapporté aussi cela d'autres sahaba ridwanullahi alayhim. Et parmi ce hadith là, il y a le hadith d'Al-Mughira ibn Shu'bah. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, et il prend ce récipient, فَانْتَلَقَ حَتَّ تَوَارَ عَنِّي فَقَضَى حَجَّتَهُ, comme il a été rapporté dans le hadith. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est éloigné jusqu'à ce qu'il s'est caché de moi et il a fait ses besoins. Il y a une faïda, il y a une fois ici, pour le talabat al-ilm. Ici, regardez, il nous dit qu'il est recommandé de dire pour celui qui rentre, donc c'est une sunna pour celui qui rentre aux toilettes, de dire Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Ici, le Bismillah qui a été rapporté de cette manière, Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith, cette version-là, elle est faible. Néanmoins, les fuqaha, ils la rapportent. Pourquoi? Parce qu'ils disent que lorsque la personne rentre aux toilettes, elle enlève ses vêtements. Et il a été rapporté un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est un hadith qu'il va mentionner maintenant, dont le hadith c'est Sitru ma bayna al-jinn wa awrati bani Adam idha dakhala al-khala an yaqula bismillah. Donc les ulama, ils ont concilié entre ces deux hadiths-là. Donc ici, le hadith, c'est lorsque une personne, yani ce qui cache une personne du djinn et de la awra, de la nudité des enfants d'Adam lorsqu'ils rentrent aux toilettes, c'est qu'ils disent Bismillah. Donc les savants, ils ont concilié entre ces deux hadiths-là, ils ont dit que c'est conseillé, donc c'est une sunna de dire Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Et donc ici il commence à mentionner les hadiths, ce qui prouve ce qu'il a dit auparavant. Il dit donc le hadith d'Ali radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc le voile qu'il y a entre les yeux des djinns et la nudité des enfants de Adam est que lorsque l'un d'entre eux enlève ses vêtements, disent Bismillah. Et il y a le hadith d'Ibn Umar radiallahu anhuma, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire ses besoins, il soulevait ses vêtements juste avant de s'approcher du sol. Tandis que il y a le hadith d'Aisha radiallahu anha, lorsqu'elle dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم sortait des toilettes, il disait غفرانك, je te demande pardon. المسألة الرابعة ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. Donc ici le quatrième point, ce qu'il est interdit de faire à celui qui fait ses besoins. Premièrement, il est interdit de faire ses besoins dans l'eau stagnante. Et ça, il y a un hadith qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, naha anil bawli fil ma'i rakit. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le fait d'uriner dans l'eau stagnante. De même qu'il n'est pas permis de tenir son sexe avec la main droite, ni de s'essuyer avec celle-ci. Et le hadith qui a été rapporté en cela, c'est le hadith de Qatadata radiallahu anhu, lorsqu'il dit que personne d'entre vous donc ne saisisse son sexe avec sa main droite et qu'il ne s'essuie pas après avec celle-ci après avoir donc et qu'il ne s'essuie pas avec après avoir fait ses besoins. De même, il est interdit d'uriner ou de déféquer sur la voie publique. À l'ombre, c'est-à-dire l'ombre que les gens utilisent, et dans les jardins publics, sous un arbre fruitier ou près des sources d'eau. Donc tout cela est interdit. Et la preuve de cela est le hadith de Abi Hurayra radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: craignez les trois grandes causes de malédiction. Le fait de déféquer dans les ressources naturelles, au milieu de la route et dans l'ombre, c'est-à-dire que les gens utilisent. Et dans un autre hadith, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: craignez les deux grandes causes de malédiction. Il dit: et quelles sont les deux grandes causes de malédiction? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui fait ses besoins sur le chemin des gens ou sur les endroits ombragés que ceux-ci utilisent. Il est également interdit de réciter le Coran, ainsi que de se nettoyer avec du crottin, des eaux ou de la nourriture. Conformément au hadith de Jabir ibn Abdillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se nettoyer avec un os ou du crottin. Et il a été également rapporté de Abi Hurayra radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qui a été rapporté donc par Ad-Dar al-Qutni, le hadith authentique, il dit donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les eaux et les crottins, il dit: il ne purifie pas. Et également dans le hadith de Salman radiallahu anhuma qu'on a vu précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il nous a été interdit de se nettoyer avec du crottin ou des eaux. Il y a une mas'ala, bidnillah, c'est une petite faïda qu'on rajoute, c'est que dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu que le prophète sallallahu donc le, il dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été aux toilettes et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ibn Mas'ud de lui rapporter trois pierres. Il n'en a trouvé que deux et il a trouvé un crottin. Ensuite il est venu, il a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam donc les deux pierres et le crottin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris les deux pierres et il a jeté les crottins, il a dit: cela est impur. Quand on prend ce hadith qui a été rapporté, dedans on comprend que les crottins de tous les animaux sont impurs. Alors ici il faut détailler pourquoi, parce que il y a une version qui a été rapportée de Ibn Khuzaymata rahimahullah, dans lequel il rajoute dans le même hadith, il dit que, en fait, c'est le crottin d'un âne. Et les ulama, ils ont dit, ya ikhwa, hatta lil fa'ida, ils disent que l'urine et le crottin, c'est-à-dire les excréments, d'un animal dont on peut consommer la viande, est pur, et n'y sont purs. C'est-à-dire, el boul, l'urine, et les excréments d'un animal dont on peut consommer la viande, sont purs. Et la preuve de cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à boire de l'urine à ceux qui se plaignaient d'un mal de ventre. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dans l'enclos où se trouvent les moutons. Et on sait très bien que dans l'enclos où se trouvent les moutons, on ne peut pas, et c'est impossible qu'il n'y ait pas de crottin de moutons. Et ensuite, donc ce qui prouve ici que ce qui est voulu ici, c'est la vie. Donc c'était un crottin de d'âne. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela est impur. Car l'urine et le crottin des animaux dont on peut consommer la viande sont impurs. Et niwud hit ya ikhwa. La mas'ala est claire. Et alhamdulillah. Donc ici, Cheikh Souleyman nous dit dans son explication de Delil Talib, donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles le crottin ne purifie pas. La première, car c'est la nourriture de nos frères djinns musulmans. Comme cela a été rapporté dans le hadith de Abi Hurayra radiallahu anhu, n'utilisez pas les crottins et les eaux pour vous purifier après vos besoins, car ce sont la nourriture de vos frères djinns. Et la deuxième raison, c'est qu'ils ne purifient pas. Comme cela a été rapporté dans le hadith rapporté par Ad-Darqutni, dans lequel il dit innahuma la yutahhiran. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné l'urine et le crottin, il dit il ne purifie pas. Quant à l'os, il ne nous est pas permis de nous nettoyer avec, pour deux raisons. La première, c'est soit l'os vient d'un animal qui a été tué de manière légiférée, soit il vient d'un animal qui a été tué de manière non légiférée ou d'une bête morte. Et si c'est une bête morte, alors cet os-là est impur. Et si c'est un animal qui a été égorgé de manière légiférée, alors c'est la nourriture de nos frères djinns musulmans. Comme cela a été rapporté dans le hadith précédent, n'utilisez pas les crottins et les os pour vous purifier après vos besoins, car ce sont la nourriture de vos frères djinns. Et la deuxième raison, car ils ne purifient pas, comme nous avons mentionné dans le hadith précédent, qui a été rapporté par Ad-Darqutni et qui est authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les crottins et les os, il dit « Innahuma la yutahhiran » Il ne purifie pas. Il nous dit aussi « L'État interdit de satisfaire ses besoins » yani de faire ses besoins entre les tombes des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des musulmans et des non-musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a aucune différence entre le fait de faire mes besoins naturels au milieu des tombes ou au milieu du marché. » Et ça, il n'y a aucun doute, il y a croit que c'est interdit. Et ça prouve son interdiction. Qui va faire ses besoins au milieu du marché si ce n'est quelqu'un qui a perdu la raison? Il dit ensuite « Al-mas'atul khamisa ma yukrahu fi'luhu lil-mutakhalli » Ce qu'il est détestable de faire pour celui qui fait ses besoins. Yukrahu hala qada'il hajati istiqbala mahibi arrihi bila ha'il li'alla yartadda al-bawl ilayh. Il dit ce qu'il est détestable ici, c'est de faire donc il est déconseillé et détestable pour celui qui fait ses besoins de faire face au vent. Alors qu'il n'y a pas une chose qui le protège du vent pour éviter que l'urine ne revienne vers lui. Et il est également déconseillé de parler pendant que la personne fait ses besoins. Pourquoi ? Parce qu'il a été rapporté que une personne est passée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a salué et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu à son salam. De même qu'il est déconseillé et détestable d'entrer aux toilettes avec quelque chose qui contient le nom d'Allah, sauf en cas de nécessité. Et avant cela, il nous dit, il est déconseillé d'uriner dans un trou ou quelque chose de similaire. Conformément au hadith de Qatadata, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'uriner dans un trou. Et Qatada a été interrogé à ce sujet et répondit « On dit que ce sont les demeures des djinns. » Et l'auteur nous dit aussi qu'on ne peut pas être à l'abri qu'il y ait un animal à l'intérieur de ce trou, yani auquel on pourrait porter préjudice. Ou si cela pourrait être une demeure pour yani, des djinns, yani on pourrait les offenser. Donc ça c'est les raisons. Et il est déconseillé d'entrer aux toilettes avec quelque chose contenant le nom d'Allah, sauf en cas de nécessité. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entrait aux toilettes, il retirait sa bague sur laquelle était inscrit le nom d'Allah. Ceci dit, ce hadith, il est daïf, il est faible. Mais de toute manière, même si ce hadith est faible, il n'y a aucun doute qu'il vaut mieux éviter de rentrer aux toilettes avec quelque chose contenant le nom d'Allah, sauf en cas de nécessité. Par exemple, le fait d'entrer donc aux toilettes avec de l'argent qui contient le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on a de l'argent avec lequel, par exemple, il y a le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou quelque chose de précieux ou autre, on a peur qu'on le vole ou qu'il l'oublie, alors à ce moment-là, il lui est permis de... Bien sûr, il le cache dans sa poche, et autres. Quant au Coran, il est interdit d'entrer aux toilettes avec. que ce soit de manière visible ou cachée. Car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la plus noble des paroles, et entrer aux toilettes avec le Coran constitue une forme d'humiliation. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا.